Voici une question qui devrait nous amener tous à réfléchir sérieusement. Qu'est-ce qu'on doit faire si on veut que nos richesses aient une portée éternelle? La parole de Dieu va nous donner une réponse des plus sages aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone sans frais au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, on a vraiment de quoi devenir très sage si on est attentif aux enseignements qu'on reçoit dans le livre de l'Ecclésiaste, pourvu qu'on le mette en pratique, bien sûr. Voici donc les questions qu'on va poser à la parole de Dieu aujourd'hui. Est-ce qu'on peut trouver du contentement dans les richesses et les plaisirs? Est-ce que le sage et l'insensé connaissent le même sort? Est-ce qu'on a raison d'être pessimiste quand on observe le monde sous l'angle de l'humanité? Qu'est-ce qu'on doit faire avec les richesses qu'on gagne en travaillant? Est-ce que c'est vrai que le fatalisme prédomine dans notre société contemporaine? Dans quel but est-ce qu'on doit travailler si on veut que nos actions aient une portée éternelle? Demeurez à l'écoute, le Seigneur va parler à nos cœurs dans quelques instants par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. C'est tellement bon, Seigneur, d'entrer dans ta présence, de savoir que tu entends nos prières. Et notre désir aujourd'hui, c'est d'entendre ta parole et de la comprendre comme tu veux qu'on la comprenne, afin qu'on la mette en pratique pour ta gloire. Alors parle à nos cœurs, dispose-nous à vraiment saisir le sens de ta belle parole. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que nous naissons tous avec des natures pécheresses. L'éducation ne peut donc pas changer le cœur humain ni la société. Il y a beaucoup de violence dans les pays où la population est instruite. Le véritable problème se trouve dans le cœur de l'homme. Nous avons aussi expliqué que la Bible contient toutes les réponses dont nous avons besoin pour notre marche chrétienne. La Bible est la parole de Dieu et elle est notre autorité. Nous ne devons pas juger la Bible à la lumière de nos expériences et des théories psychologiques, mais nous devons plutôt examiner nos expériences et les théories à la lumière de la Bible et retenir seulement ce que la parole de Dieu approuve. La sagesse ou l'instruction n'apporte pas nécessairement le bonheur. En fait, elle peut apporter de la souffrance autant que du confort. Par exemple, une personne non instruite qui vit dans le Nord peut se réjouir du réchauffement climatique. Par contre, un écologiste ou un biochimiste ne verra pas le réchauffement avec le même optimisme. Nous avons vu aussi que le plaisir sexuel ne comble pas notre âme. Par exemple, de nombreuses personnes deviennent dépendantes du porno au point que cela ruine leur mariage. La dépendance du porno coûte même leur emploi à certaines personnes. Le rire, le divertissement et les richesses ne peuvent pas contenter notre âme. De nombreuses personnes fuient la réalité dans le divertissement. Par contre, le taux de suicide est aussi élevé parmi les riches que dans le reste de la société. Lorsqu'il examinait les choses d'un point de vue humain plutôt que divin, le roi Salomon a cherché le contentement dans les plaisirs et les richesses. Son âme n'a pas été comblée. Voici le triste constat qu'il a fait de l'ouvrage de ses mains. Chers amis, débutons notre lecture du livre de l'Ecclésiaste, chapitre 2, verset 11. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Apprenons de l'expérience de Salomon. De nombreuses personnes ne sont pas disposées à croire Salomon sur parole. Elles doivent refaire les mêmes expériences que Salomon, quoique peu d'entre elles le font aussi intensivement que Salomon. Tous arrivent à la même conclusion. La vie est futile, inutile et ne sert à rien. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. L'Ecclésiaste est écrit d'un point de vue humain. Salomon n'a pas trouvé le contentement dans les richesses et les plaisirs. Apprenons de lui cette précieuse leçon plutôt que de gaspiller notre vie dans la vanité. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Citation de l'Épître de Paul, de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Pendant le reste du chapitre, Salomon va traiter de la sagesse et de la folie. Aujourd'hui, les gens vivent pour le moment présent. Nous vivons égoïstement, strictement pour nous-mêmes, et il nous faut tout avoir maintenant. Les versets qui suivent traitent chacun d'un aspect de cette façon de vivre. Même dans les programmes scolaires, certains enseignants annoncent aux écoliers qu'ils vont leur apprendre à être égoïstes. Débutons la lecture avec Ecclésiaste chapitre 2, verset 12. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Le sage et l'insensé ont la même fin. Salomon a fait la belle vie. Il dit que ceux qui lui succéderont referont ce qu'il a déjà fait, et il les avertit qu'ils trouveront cela monotone. Ecclésiaste 2, verset 13. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Il est mieux d'être sage que d'être insensé. Il est mieux d'être un homme instruit qu'un ignorant. Ecclésiaste 2, verset 14. Le sage a ses yeux à la tête, et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Le sage a ses yeux à la tête. Nos parents et nos enseignants nous ont probablement tous dit de servir notre tête. C'est ce que Salomon dit dans ce verset. Un homme sage utilise ses yeux et sa tête, alors que l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Qu'importe combien sages et combien intelligents nous ne sommes pas si différents de l'insensé. Un jour, nous partons tous les pieds par devant, c'est-à-dire nous mourrons tous. Le sage et l'insensé connaissent le même sort. Ecclésiaste 2, verset 15. Et j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité. Nous penserions qu'une personne intelligente trouverait une porte de sortie. Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité. L'homme moderne, malgré le progrès scientifique et le progrès médical, n'a pas tellement prolongé notre espérance de vie. Nous voyons beaucoup plus de personnes qui atteignent le vénérable âge de 100 ans qu'autrefois. Cependant, ce prolongement d'une ou deux décennies est petit comparé à 1000 ans ou à l'éternité. Cela ne fait même pas une seconde sur l'horloge de l'éternité. L'homme a peu fait pour lui-même ici-bas sur terre. Ecclésiaste 2, verset 16. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé. Puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé. Les deux meurent de la même façon. Vous êtes peut-être doué intellectuellement. Vous avez peut-être un quotient intellectuel très élevé. Vous êtes peut-être très instruit et vous avez peut-être plusieurs diplômes universitaires. Cependant, tout cela vous sera inutile au moment de votre mort. Rien ne vous empêchera de mourir. Lorsque ce sera votre heure, vous quitterez cette terre. Personne ne pourra rien faire pour que vous puissiez échapper à la mort. Ecclésiaste 2, verset 17. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. » Permettez-moi de vous rappeler que vanité signifie vide, futile, inutile, sans but. Qu'est-ce que tout ce que nous faisons sous le soleil nous rapporte? Nous avons vu des hommes d'affaires construire des empires commerciaux. Ils sont devenus très riches, mais après leur mort, leurs enfants n'ont pas su prendre la relève. Ils n'avaient pas le sens des affaires, ni l'expérience de leur père. D'autres ont dû racheter l'entreprise car elle se dirigeait vers la faillite. J'ai connu une dame qui a ouvert un restaurant près d'une école. Elle gagnait sa vie avec ce commerce qu'elle gérait avec sagesse. Les parents envoyaient leurs enfants manger à ce restaurant et elle les facturait à la fin du mois. Cette dame aimait le public et sa clientèle lui était fidèle. Elle a dû vendre son restaurant pour des raisons de santé. La personne qui l'a acheté l'a mise en faillite, car elle n'avait pas de patience avec les enfants et elle a chassé cette clientèle. Nous pouvons travailler toute une vie, et ce que nous avons construit est détruit par d'autres. Une invention devient vite dépassée. Des usines ferment parce que le produit qu'elles fabriquaient n'est plus en demande. Très peu d'usines doivent fabriquer des montres entièrement mécaniques depuis l'arrivée des montres électroniques numériques. Combien de laboratoires doivent fermer à cause de l'arrivée des caméras numériques? La demande pour les pellicules a énormément diminué. Nous pouvons travailler toute une vie, mais ce que nous avons construit ou développé passe. Qu'est-ce que tout ce que nous faisons sous le soleil nous rapporte? Ecclésiaste, chapitre 2, verset 18. « J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Je devrais partir un jour et laisser tout ce que je possède à mes héritiers. » Avez-vous déjà réfléchi à cela? À quoi vous serviront vos richesses au moment de votre mort? Des personnes ont travaillé toute leur vie pour accumuler quelques biens, et en partant, ils laisseront tout à des parents qui ne craignent pas Dieu. D'autres personnes donnent leurs biens à une organisation chrétienne afin que leur argent serve à proclamer l'Évangile après leur départ. Malheureusement, de nombreuses organisations chrétiennes sombrent dans l'apostasie et cessent d'enseigner la parole de Dieu. John Harvard, le fondateur de l'université Harvard, est un exemple bien connu. Il était un croyant évangélique et il a laissé sa fortune à l'université dans le but d'enseigner la foi chrétienne. Aujourd'hui, l'université n'enseigne plus la foi évangélique, car l'institution a rejeté la foi de John Harvard. L'argent que le fondateur a laissé à l'université ne sert plus à atteindre le but désigné par John Harvard. Aujourd'hui, des gens lèguent de l'argent à des organisations ou des institutions chrétiennes, mais ils n'ont pas l'assurance que ces institutions demeureront fidèles à Dieu. Nous savons que Salomon a vécu quelque chose de semblable. Nous trouvons le récit de ces événements dans le chapitre 12 du premier livre des Rois. Salomon a laissé son royaume à son fils Roboam. Et à cause de son orgueil aveugle, le royaume a été divisé en deux. 10 tribus se sont séparées et ont établi un autre roi pour régner sur elles. Roboam n'a régné que sur les tribus de Juda et de Benjamin. C'est l'une des périodes tragiques de l'histoire d'Israël. Revenons au texte, Ecclésiaste 2, verset 19. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Salomon savait que construire une chose pour ensuite la laisser à un insensé est une perte de temps. Ecclésiaste 2, verset 20. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir, à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Notez que Salomon parle de ce qui se fait sous le soleil. Le livre de l'Ecclésiaste nous parle d'un point de vue humain et non du point de vue divin. Ce n'est pas un homme assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ qui s'adresse à nous. Lorsque nous observons le monde sous l'angle de l'humanité, nous avons toutes les raisons d'être pessimistes. Ecclésiaste 2, cette fois nous lisons les versets 21 et 22. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il, en effet, à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Travaillons pour les richesses dont nous pourrons profiter. Si nous accumulons de grandes richesses et que nous n'avons pas le temps d'en profiter, alors nous travaillons pour quelqu'un d'autre. Réfléchissez à cela un instant. Vous travaillez fort toute votre vie. Vous négligez votre famille et votre santé. Vous vous enrichissez et soudain, vous êtes frappé par un infarctus. Vous aurez travaillé toute votre vie. Vous n'aurez pas joui de vos biens. Vous aurez travaillé toute votre vie pour une autre personne. De plus, vous n'aurez pas de trésor céleste puisque vous aurez consacré tous vos efforts, toutes vos ressources et toute votre énergie à une entreprise. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Citation de l'Évangile selon Matthieu chapitre 6, versets 19 et 20. Parole du Seigneur. Les richesses que nous entreposons au ciel seront les nôtres pour l'éternité. Ecclésiaste 2, verset 23. Tous ces jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Salomon s'est rendu compte qu'il était inutile de s'inquiéter, car il ne pouvait pas faire quoi que ce soit pour changer la situation. Ecclésiaste 2, versets 24 à 26. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui en effet peut manger et jouir si ce n'est moi? Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Le fatalisme prédomine dans notre société contemporaine. Que vous soyez un chrétien ou un non-croyant, si vous vivez strictement pour vous-même, vous n'aboutirez à rien. Il ne vous restera que de l'amertume dans votre cœur. À la fin de vos jours, il ne vous restera que des feuilles mortes dans les mains. Dans ce chapitre, le roi Salomon, le roi d'Israël, adopte une philosophie de la vie que l'on appelle le fatalisme. Le dictionnaire Larousse définit ainsi le fatalisme. Tendance à considérer que n'arrive que ce qui doit arriver et à se montrer de ce fait passif ou résigné face aux circonstances. Le dictionnaire propose aussi une autre définition. Doctrine religieuse ou philosophique, selon laquelle tout est inexorablement fixé d'avance par le destin, par la fatalité. En général, les païens étaient des fatalistes. Le bouddhisme et le platonisme sont des systèmes fatalistes. De nos jours, certaines sectes donnent l'impression d'avoir une grande foi en Dieu, mais en fait, leur foi est du fatalisme. J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous traduisons et adaptons les textes, avait perçu que le fatalisme est populaire en Amérique. Voici ce qu'il racontait. Le fatalisme est populaire dans l'Amérique contemporaine. J'ai l'habitude de terminer mes conférences le jeudi et de rentrer chez moi par avion le vendredi. Le vendredi après-midi, je prends un vol pour le sud de la Californie et presque tous les passagers sont des hommes. Qui sont ces hommes? La plupart sont des hommes mariés, des représentants ou des vendeurs pour différentes compagnies. Leur famille vit en Californie, et le vendredi, ils entrent chez eux par avion. La plupart d'entre eux sont épuisés. Nous lisons la fatigue de la semaine sur leur visage. Plusieurs profitent du temps sur l'avion pour compléter des rapports qu'ils remettront à leur compagnie si l'avion arrive à temps. Ils se commandent un verre et se mettent à jaser et à rire. Ils rient sous l'effet de la boisson, et non parce qu'ils sont joyeux et heureux. Il arrive que je sois assis à côté de l'un d'eux, et nous discutons ensemble. Je remarque qu'ils ont une perception fataliste de la vie. Un jour, mon avion a traversé une zone de turbulence atmosphérique. Il y avait une tempête. L'homme, assis à mes côtés, n'a pas semblé être perturbé par la tempête. Je lui ai dit, « Tu ne sembles pas avoir eu peur lorsque nous avons traversé la zone de turbulence. » « Non, répondit-il, c'est inutile d'avoir peur. Ce qui doit arriver arrivera et nous n'y pouvons rien. Lorsque c'est ton tour de quitter la terre, tu ne peux pas faire quoi que ce soit. » Cet homme avait une philosophie fataliste de la vie. Ce genre de philosophie est populaire et elle porte plusieurs noms. De nombreuses personnes ont adopté cette philosophie de la vie. Salomon a cherché le contentement dans cette philosophie. Chapitre 3 d'Ecclésiaste, verset 1er. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. À la prochaine émission, nous compléterons cette section sur le fatalisme. Je vous invite à lire les chapitres 3 et 4 de l'Ecclésiaste. Qu'est-ce que tout ce que nous faisons sous le soleil nous rapporte? J'aimerais répondre à une question qui fut posée dans le texte. Qu'est-ce que tout ce que nous faisons sous le soleil nous rapporte? La terre et tout ce qui s'y trouve est temporaire. Un jour, tout sera dissous. Si nous ne vivons que pour nous-mêmes, et que nous nous préoccupons que de ce qui est sur terre, nous travaillons en vain. Il ne nous restera rien dans l'éternité. Si nous voulons faire quelque chose qui est une portée éternelle, travaillons pour le royaume de Dieu. Les richesses de ce royaume sont éternelles. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. C'est l'apôtre Paul qui nous cite cela dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 5. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Toujours l'apôtre Paul, mais cette fois dans Éphésiens chapitre 3, verset 8. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Toujours l'apôtre Paul, mais cette fois s'adressant au jeune Timothée. Citation de 1 Timothée, chapitre 6, verset 17. J'aimerais vous poser une seule question. Pourquoi vivez-vous? Pour ce monde ou pour ce que Dieu offre présentement, l'éternité? Chers amis, prochaine émission Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er à chapitre 4, verset 9.
Merci, Régent. J'ai bien aimé ça quand tu as dit que même si les gens, en général, vivent une ou deux décennies de plus qu'autrefois, il reste que ce prolongement est très peu si on le compare à l'éternité. Tu as ajouté que ça ne faisait qu'une seconde sur l'horloge de l'éternité. Mes amis, il y a peut-être une vingtaine d'années, j'ai entendu un prédicateur dire la même chose et ça m'a vraiment frappé. 100 ans, par exemple, c'est à peine une seconde sur l'horloge de l'éternité. Mais ce qui m'attriste, c'est que généralement, il faut déjà être né de nouveau pour réaliser que cette déclaration est vraie. Avant de devenir une enfant de Dieu, je ne m'arrêtais pas à de telles choses. Si on m'avait parlé de l'éternité de cette manière, j'aurais pensé que c'était de la folie. Mais maintenant, je sais pertinemment que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. C'est Pierre qui nous dit ça dans sa deuxième épître, au chapitre 3, verset 8. Aujourd'hui, les gens cherchent des moyens de vivre le plus longtemps possible, avec la meilleure qualité de vie possible. Mais, mes amis, quand on est un enfant de Dieu, quand on a compris que l'éternité dans le royaume de Dieu est le plus beau but pour l'être humain, on est triste de voir qu'autant de gens rejettent cette vérité et s'acharnent pour accumuler des richesses qui vont périr un jour, des richesses qu'ils n'apporteront pas avec eux après leur mort. Mon ami, qui que tu sois, riche ou pauvre, instruit ou peu instruit, Dieu t'offre la plus grande richesse que tu puisses trouver, et c'est celle de devenir un enfant de Dieu, un héritier de toutes les promesses qu'il fait à ses enfants. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Et dans le livre de l'Apocalypse, il décrit l'endroit où les enfants de Dieu vont habiter éternellement dans la présence de Dieu. Tu peux en lire la description au 21e chapitre des versets 9 à 27. Je la lirai pas présentement, mais je t'encourage à la lire. C'est tellement beau l'endroit où les enfants de Dieu vont être pour l'éternité. Mais pour moi, c'est surtout d'être dans la présence de Dieu, de voir Jésus face à face, mon Sauveur merveilleux. Et aujourd'hui même, tu peux toi aussi devenir un enfant de Dieu. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, verset 12, il est écrit qu'à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, qui est Jésus, qu'à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mon ami, est-ce que tu crois en Jésus? Crois-tu qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu fait homme, qu'il est venu sur la terre pour recevoir le châtiment qu'on méritait tous pour nos péchés? Paul nous dit dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 21, en parlant de Jésus, que celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Mon ami, parce que Dieu est juste, il devait punir le péché. On méritait tous la punition éternelle, mais Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, on ne périsse pas, mais qu'on ait la vie éternelle. Jésus a subi ma condamnation à ma place. Il a subi la tienne. Alors repens-toi, change de direction à l'égard du péché et demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Le Seigneur Jésus a les bras grands ouverts pour toi.
Réjean, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Mmh. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Mmh. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage, c'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G6P2. Chers amis, au revoir.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.